Bonjour, bienvenue sur la fréquence de Tendance Ouest, votre magazine Tendance Confidence. Jusqu'à 9h, je vous propose, entre la fête de l'Ascension et la Pentecôte, de réécouter une émission que j'avais enregistrée avec le chanteur Michel Delpech, qui est décédé le 2 janvier 2016, et je l'avais rencontré à son domicile en 2014. Je vous propose de réécouter cette émission, et je lui posais cette première question, lui qui avait aussi une maison dans le département de l'Orne, ce qu'il aimait dans cette région, qu'est la Normandie.
J'aime bien toute la région de Trouville, l'arrière-pays comme Pont-l'Évêque. Et j'aime énormément aussi la région Étretat, Fécamp, Dieppe, Varengeville, Veules-les-Roses. Aussi, bien sûr, Mont-Saint-Michel, la merveille des merveilles.
Michel Delpech, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Comment écrire la partition musicale d'une vie pour trouver la bonne harmonie entre musique et rythme?
Voilà, c'est compliqué, les fausses notes on en fait forcément, le but étant d'en faire le moins possible au fur et à mesure du temps, d'apprendre à ajuster son tir et à pas trop parler pour ne rien dire aussi, parce qu'on se rend compte avec l'âge que combien on a pu être bavard finalement, et raconter un peu n'importe quoi.
Est-ce que justement le silence sur cette partition musicale, est-ce que le silence est un mot que vous aimez ou qui vous fait peur?
Non, j'adore le silence pour toutes les raisons du monde. D'abord parce que c'est dans le silence qu'on arrive à se voir un peu, enfin à voir les choses. Bien sûr, c'est un grand allié quand on arrive à le supporter. J'ai pas toujours supporté le silence, hein. Au contraire, il me fallait de brouiller de la fureur lorsque j'étais plus jeune. Mais j'ai appris depuis à aimer le silence. Et puis, musicalement aussi, j'aime le silence. Vous savez que Miles Davis disait que la musique, c'était l'art d'habiter le silence.
Chacune de nos vies est ponctuée de moments plus ou moins importants, plus ou moins joyeux. Vous qui êtes chanteur et compositeur, entre accessoires et essentiels d'une vie, comment trouver le bon rythme?
Il me semble qu'il faut de la vigilance, beaucoup de vigilance, se remettre en question chaque jour, dire qu'on n'est pas assez fort. Moi, c'est la question que c'est la réflexion que je me fais plusieurs fois par jour, mais vraiment absolument chaque jour, c'est que je ne suis pas assez fort. On n'est jamais assez fort. Il y a un travail sur soi à faire. Il faut se maîtriser absolument, tout en n'étant pas dans la crispation. Donc tout ça n'est pas simple, parce qu'il faut être à la fois décontracté, détendu, ouvert, et en même temps maîtrisé. En général, quand on cherche à maîtriser, on tend un peu les muscles, on se renferme un peu sur soi, donc tout ça c'est pas bon. Alors c'est un boulot d'être un homme debout et costaud. Moi, tous les jours, je me dis que c'est insuffisant, qu'il va falloir faire mieux demain.
Pensez-vous, Michel Delpech, que la vie soit aussi l'école de l'humilité?
Oui, je pense que de toute façon c'est une école d'humilité, parce que je pense que lorsqu'on se grandit soi-même, enfin qu'on se met sur ses ergots et qu'on laisse son orgueil dominer sa nature, il y a un coup de bâton derrière. L'ennemi, c'est l'orgueil. Et donc tout nous apprend à nous mettre à notre place, quoi. Parce qu'en fait, l'humilité, c'est pas forcément de se mettre en dessous non plus. Il faut pas s'écraser sous le poids de la culpabilité ou de quoi que ce soit, et de dire je suis le plus petit des plus petits, le dernier des derniers. C'est pas ça. C'est qu'il faut trouver sa juste place parmi les autres. On n'est ni plus ni moins que les autres. Et tout ça, bon, c'est extrêmement difficile, parce qu'on a beau se le dire, on a des pulsions, on a des instincts, on a des croyances, on a des illusions. Enfin voilà, on est plein de choses qui nous encombrent.
Nous vous connaissons comme chanteur, mais aussi comme écrivain, avec ce titre « La jeunesse passe trop lentement », édité chez Plon. Vous parlez beaucoup dans cet ouvrage de la force des petits riens, tous ces minuscules défis quotidiens qui vous ont conduit à la guérison de cette dépression. Est-ce que ce livre a été pour vous, Michel Delpech, une forme de thérapie?
Oui, enfin ce livre je ne l'ai pas fait tout seul, bon les chansons d'ailleurs pas toujours tout seul non plus. Je l'ai écrit avec une journaliste formidable qui s'appelle Florence Assouline, qui m'a donné un grand coup de main. Mais enfin bon, tout ce qui est dans le livre, je le revendique. Ce sont mes mots, ce sont mes ce que je crois, ce que je pense. Elle l'a mis en forme, quoi. Oui, je l'ai travaillé un peu de la même manière. D'abord de façon assez brute. On a accumulé tout un tas de choses, et puis ensuite on a fait un petit travail d'orfèvre qu'il faut faire aussi quand on fait une chanson, c'est-à-dire garder l'essentiel, polir un peu tout ça, donner son rythme, essayer que le récit soit captivant, enfin, faire du mieux possible.
Dans votre livre, vous écrivez que guérir, ce fut d'abord réapprendre ce qui paraît évident à la majorité des gens, vivre dans l'espace et le temps. Mais qu'avez-vous envie de dire aux auditeurs ce matin de Tendance Ouest qui pensent que la vie ne vaut rien parfois et d'autres qui pensent que rien ne vaut la vie?
Ben, d'abord, la vie ne vaut pas rien et il m'a été donné de le comprendre, de le voir. Au contraire, la vie est absolument sublime et sacrée. Et je crois qu'il faut essayer jour après jour de retrouver ce sens du sacré, justement, avec Dieu ou sans Dieu d'ailleurs. Hein. Je parle pas comme un bigot là. Je dis que les choses sont sacrées. Alors après, on croit ce qu'on croit, mais que si chaque jour on a une petite victoire sur soi-même, on finit par en faire une grande bataille, une grande victoire. Je crois que c'est un travail de chaque instant, mais que c'est ça qui est intéressant. La vie de toute façon n'est pas rigolote, même si on a de la chance, parce que moi j'ai beaucoup beaucoup de chance d'être ce que je suis, d'avoir fait ce que j'ai fait, d'être sorti de situations incroyables. Il y a de la chance bien sûr, il y a un facteur chance, mais qui qu'on soit, on peut chaque jour gagner un peu de terrain, se vaincre. Vaincre nos petits défauts. Enfin, on peut faire mieux, disons, mieux que la veille. Après, c'est comme dans le golf. Vous savez, le golf, c'est une école de vie aussi. D'un seul coup, on balance la balle très loin, on se dit, ça y est, j'ai trouvé le truc. Et puis, le lendemain, on touche pas une balle. Je fais pas de golf, mais c'est ce que tous les golfeurs m'ont dit. Donc, c'est une école de vie aussi, parce que on avance, puis on recule de deux pas. Mais, bah, tant pis, il faudra faire trois pas le jour d'après.
Justement, des heures sombres qui ont été miraculeusement, Michel Delpech, balayées par une série de déclics et notamment des retrouvailles avec la figure du Christ. Alors que vous étiez au Saint-Sépulcre à Jérusalem, vous qui avez construit votre maison sur le sable, vous décidez alors de fonder votre vie sur le roc.
Ouais, enfin, je décide pas, en fin de compte. Je me rends compte que, oui, à ce moment-là, sur le lieu supposé du tombeau du Christ, je me suis dit que une partie de ma vie s'arrêtait là et qu'une autre commençait, quoi. C'était ça ce qui était frappant. C'était un moment très beau, mais difficile de parler de vive voix d'ailleurs, parce que c'est un moment émotionnellement extrêmement puissant et en même temps extrêmement doux. Mais la puissance et la douceur pour moi vont souvent ensemble. Et voilà, donc j'ai rencontré une personne du Christ. J'étais chrétien de culture, pas mal de gens, quoi. Enfin, mais sans avoir spécialement approfondi tout ça. Et lors de cette visite là-bas, effectivement, j'ai été frappé. Oui, par le Christ, on peut dire ça, puisque d'un seul coup, sa présence s'est imposée à moi. J'affiche ce que je suis, enfin je dis ce que je suis. Après, je ne suis pas un chanteur chrétien ou un chrétien chanteur. Je suis un homme qui croit à ceci, à cela, qui forcément par son âge et son parcours se sent engagé dans spirituellement, politiquement aussi d'une certaine manière. C'est très difficile de dire voilà, ben, vous n'avez rien à savoir de moi, je suis un chanteur et vous ne saurez rien de plus. C'est pas, il y a un moment où ça n'est plus possible, quoi. J'ai longtemps vécu comme ça, parce que quand on est jeune, d'abord il y a des choses qu'on n'a pas expérimentées, donc autant la fermer, quoi. Mais quand on a vécu des trucs dans la vie importants comme ça, c'est très difficile de les dissimuler. Puis je crois que quand on croit, il faut le dire, voilà. Il me semble que c'est la moindre des choses.
Pourquoi, selon vous, Michel Delpech, comme le dit saint Paul, l'homme fait-il le mal qu'il ne voudrait pas faire et le bien qu'il voudrait faire, pourquoi ne le fait-on pas?
Même saint Paul se posait la question, donc vous pensez bien que c'est pas moi qui vais avoir la réponse. Non, je crois que c'est notre nature qui... Je crois que les forces du mal qui sont en nous, enfin, puisque tout cohabite en nous, se déchaînent et se révoltent contre cette envie du bien. Et plus on a envie de faire du bien, plus on rencontre des obstacles. Malheureusement, c'est ainsi.
Revenons un instant sur cette expérience lors du pèlerinage que vous avez effectué en Terre Sainte, sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Face à un tombeau vide, c'est une absence ou une autre forme de présence que vous avez ressentie?
Jésus, par exemple, est beaucoup plus présent dans ma vie que si on avait trouvé le tombeau plein. Justement, c'est ça, pour parler de lui, par exemple. Mais le phénomène est le même pour les gens que j'ai aimés profondément, totalement, comme mes parents, par exemple, qui sont décédés tous les deux. ce qui est bien naturel à l'âge que j'ai. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça, ce sont des gens qui sont morts dans leur... Enfin, pour ma mère, dans sa vieillesse. Mon père est mort un peu trop jeune, mais ils n'ont jamais été aussi présents dans mon existence que depuis qu'ils sont décédés. Je me souviens que lorsqu'ils étaient vivants, qu'ils étaient dans leur maison, en Sologne, où j'allais les voir de temps en temps, le reste du temps, je pensais très peu à eux, j'étais dans le tourbillon de ma vie. Alors qu'aujourd'hui, même dans le tourbillon de ma vie, ils sont présents. Je leur parle parfois, je les vois, ils sont tout le temps là. Alors qu'ils sont morts. Hein, ça, c'est un mystère, mais je trouve que l'absence, enfin, ce qui me concerne, il y a ceux qu'on oublie, bien sûr, parce que c'est la loi aussi. Et donc, ceux-là ont peut-être pas marqué notre vie comme on le pensait. Et puis, ils sont sûrement présents pour d'autres. Voilà, parce que... Mais ceux qu'on a aimés profondément, je trouve, sont presque encore plus présents quand ils ont disparu.
Alors, puisque vous employez ce verbe « aimer », justement, il paraît que ce que l'on fait de bien résonne dans l'éternité. Que représente à vos yeux, Michel Delpech, ce verbe « aimer » ?
Il y avait Gustave Thibon, qui était un philosophe chrétien, autodidacte, qui disait « Il y a un moment où on connaît si bien les hommes que c'est comme si on les aimait ». Alors, c'est une phrase à la fois un peu cynique, et en même temps, elle est belle et juste, parce que quand on les connaît bien, c'est que finalement, on les aime. Aimer, c'est pas une affaire de sentiment, je crois. Il y a le sentiment amoureux, enfin, ou le sentiment, la sympathie, qui est une sorte de chose qui nous dépasse, et qui est quelque chose du domaine de l'émotionnel. Mais l'amour, c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'il y a quand même une part de travail pour aimer, d'ajustement, enfin, de sens du compromis. Enfin, moi, les moments où j'ai senti vraiment l'amour, le vrai, celui auquel je tends, ce sont des moments comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec le sentiment.
Avec vous, nous avons parlé de Jérusalem, parlons aussi de Bethléem, avec la naissance, que Dieu dans le christianisme devienne embryon et devienne bébé. Est-ce que ça vous surprend ?
Alors ça, évidemment, c'est le mystère des... Mais en fin de compte, je me dis toujours, parce que souvent on dit, bon, c'est pas possible, tout ça n'est pas possible. Mais est-ce que la vie elle-même est possible ? Voilà, hein ? Donc... d'un seul coup, on a la réponse, quoi. Hein ? Même si on doute un peu de tout ça, on se dit, bon, c'est une légende... Mais si on regarde combien le monde est encore bien plus mystérieux, le fait même qu'il soit est un mystère incroyable. Donc théologiquement, le fait que Dieu se fasse embryon et vienne nous rencontrer ici-bas, c'est une beauté. Bon, de toute façon, le christianisme, indépendamment de bon, on peut croire de toutes les manières, il y a tout un tas de religions, elles sont toutes belles les religions. Mais bon, moi je suis bien, évidemment, j'aime le christianisme par-dessus tout, bien sûr. Je lui trouve théologiquement quelque chose de sublime et de parfait, quoi.
Par rapport à ces différents saints que vous avez pu lire, ou est-ce qu'il y a des saints que vous aimez particulièrement ? Vous dites, tiens, j'accroche un peu plus vers Thérèse de Lisieux, Saint-Augustin, etc.
Alors j'adore Thérèse de Lisieux, j'adore Saint-Augustin aussi, j'adore Saint-François de Sales aussi. Sauf d'un personnage extrêmement touchant, agréable, doux. Alors il y en a des plus torturés. J'aime bien Saint Jean de la Croix aussi, qui est pas un rigolo. Mais j'ai beaucoup fréquenté les biographies de saints pendant un certain temps. Ça m'a un petit peu passé. C'est toujours la même chose. Il y a des périodes comme ça. Mais j'ai lu pas mal de biographies. J'aimais beaucoup Thérèse d'Avila aussi, qui était une personne extrêmement dynamique. Mais j'ai un petit faible pour Thérèse de Lisieux. Oui.
Pas mal, c'est la régionale de l'étape, si vous me permettrez, entre guillemets, puisque tendance ouest, Lisieux.
Je ne voulais pas être démagogue, hein, du tout. Non, c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais j'aime bien aller à Lisieux de temps en temps. Quand je passe dans le coin, je m'arrête à la basilique. C'est un endroit que j'aime beaucoup, que je trouve très habité, très fort. Et puis Thérèse, quand on a lu l'histoire d'une âme, bon, comment ne pas l'aimer, quoi.
Et justement, entre Lisieux et le Mont-Saint-Michel, je ne peux que parler de l'archange, avec votre prénom de Michel. Comme quoi, la vie est aussi un combat entre le bien et le mal. Et là, vous êtes bien avec l'archange Saint-Michel.
Absolument, la vie est un combat. Et que nous devons mener contre nous-mêmes, hein, c'est cette cohabitation de tout dans nous qu'il faut faire le tri dans tout ça. Il faut donner priorité à certaines choses, gagner en vertu, quoi. C'est, j'emploie des mots un peu vieillots, mais c'est ça. Et ne jamais penser que c'est gagné, parce que de toute façon, les petits démons sont toujours prêts à faire leur numéro. Et donc, c'est jamais gagné, quoi. Je pense pas qu'il y ait d'homme véritablement sain. Je pense que Dieu seul l'est, et qu'on est toujours en instance, et avec toujours la possibilité d'une rechute, même quand on a acquis un certain bien. On a très vite fait de perdre la grâce, parce que c'est très difficile de monter, mais c'est extrêmement facile de descendre.
Au terme de cet entretien, ou au soir d'une vie, ou en espérance d'un nouveau jour, Michel Delpech, qu'est-ce que vous direz à Dieu lorsque vous serez face à lui ?
Alors, est-ce que ça va ? C'est tout. Je ne dirai rien du tout. Et j'espère avoir le courage, la force, et avoir fait une vie suffisamment intéressante pour ne pas avoir trop baissé la tête, quoi.
C'était donc une rediffusion d'une émission enregistrée avec le chanteur Michel Delpech, qui est décédé en janvier 2016.